Chapitre 6, troisième partie, Mustapha d'Alger, avril. Je t'écris d'Alger où je suis venu assister à la fête des fèves, à Eid el-Fitr, une fête nègre que l'usage est de célébrer chaque année dans le courant d'avril, à l'époque où commence la récolte des premières fèves. Pourquoi les fèves précisément ? Quel est le sens religieux de la fête ? Pourquoi ce taureau, habillé d'étoffes, décoré de bouquets, qu'un sacrificateur égorge au milieu d'un cérémonial barbare ? Pourquoi la fontaine, l'eau lustrale et le sang du taureau dont la foule est aspergée comme d'une pluie sacrée ? D'où vient enfin que la fête a particulièrement lieu par les femmes et pour les femmes ? Car c'est une femme qui distribue le sang, qui la première puisa la source, et si les hommes exécutent les danses, les femmes ont l'air d'y présider. Il y a sur l'Aïd el-Foul d'Alger de nombreux détails explicatifs publiés dans plusieurs livres. Permets-moi de m'en tenir au récit de ce que j'ai vu. C'est un tableau fort original et très brillant, et je n'ai pas songé une seule fois aujourd'hui que cette cérémonie tout africaine, mêlée de pompes tragiques et de divertissements, de ballet et de bombance, fut autre chose qu'un grand spectacle imaginé par ce peuple joyeux pour s'éblouir lui-même, s'amuser beaucoup et s'accorder une fois par an les plaisirs combinés du faste, des gaietés permises et de la tempérance. La fête se donne au bord de la mer, entre le champ de manœuvre et le hameau du Sendé, autour d'un marabout enfoui dans les cactus, sur une large esplanade d'où la vue embrasse jusqu'à l'horizon la double étendue de la mer sans limite et du Hamma. C'est sur ce terrain relevé, on ne peut mieux choisi pour une aussi vaste mise en scène, que sont réunis les 2 ou 3 000 spectateurs de la fête, tous nègres ou négresses. On y dresse des tentes, on y improvise des fourneaux, on y établit des cuisines en plein vent, à peu près comme dans nos fêtes de village. Les cafetiers maures s'y rendent avec leur matériel de cuisine. Et aussitôt, la cérémonie terminée, commencent les collations qui sont en définitive la plus sérieuse occupation de la journée. Au-dessous de cet amphithéâtre ainsi couronné de tentes et tout pavoisé de pavillons, et sur la plage même, se tient l'autre moitié de la foule, c'est-à-dire les fanatiques chargés de la cérémonie, les dévots qui veulent la suivre de près, les curieux Européens ou Arabes qui viennent pour voir, enfin les quelques centaines de nègres accourus avec la volonté, le courage et la vigueur de danser 12 heures de suite, ce qui, par parenthèse, est un tour de force surhumain. Je n'ai fait qu'apercevoir le taureau tant les places étaient disputées au moment où la procession arriva. J'entendis, quoique la distance et le vent de la mer en adoucissent beaucoup l'effet, une effroyable musique de castagnettes de fer, de tambourins et de hautbois, qui débouchait tout à coup sur la plage et sonnait l'arrivée du cortège. La foule aussitôt se précipita, et je compris à son mouvement concentrique que le taureau devait en occuper le milieu. Quelques minutes après, le cercle s'ouvrit et laissa voir la victime couchée sur le sable, la gorge coupée et déjà prête à livrer tout son sang. À peine abattue, les plus ardents s'étaient jetés sur elle, et quand elle eut achevé de saigner, à l'instant même on la dépeça. Cette œuvre de boucherie s'accomplit au pied du marabout et le plus près possible de la fontaine, de telle sorte que l'illustration et le sacrifice eurent lieu dans le même instant. Alors, beaucoup de spectateurs descendirent à la source, et je vis pendant une partie de la matinée circuler de petites bouteilles pleines d'eau. Des négresses revenaient, portant avec satisfaction des éclaboussures sanglantes sur le visage, mais l'écarlate du sang se perdait dans la couleur pourpre des haïques, et ceci est un détail que je te recommande. Imagine Un millier de femmes au moins, c'est-à-dire la grande moitié de cette étrange assemblée. Toutes non pas habillées, car le voile uniforme cachait au contraire des splendeurs innombrables de couleurs, mais enveloppées de rouge et de rouge éclatant, sans nuance, sans adoucissement ni mélange, le pur rouge à peine exprimable par la palette, enflammé en outre par le soleil, et poussé jusqu'à l'extrême ardeur par toutes sortes de contacts irritants. Ce vaste étalage d'étoffes flamboyantes se déployait en effet sur un tapis d'herbes printanières du vert le plus vif et se détachait sur une mer du bleu le plus âpre, car il faisait un peu de vent et la mer frissonnait. De loin, ce qu'on apercevait d'abord, c'était un tertre verdoyant, confusément empourpré de coquelicots. Et de près, l'effet de ces fleurs singulières devenait insoutenable, et lorsqu'une douzaine de femmes se réunissaient sur le même point, entourées d'enfants vêtus comme elles, et de manière à ne plus former qu'un seul groupe pleinement coloré de vermillon, il était impossible de considérer longtemps ce foyer de lumière et d'éclat sans en être pour ainsi dire aveuglé. Tout pâlissait à côté de ce rouge inimitable, dont la violence eût effrayé Rubens, le seul homme du monde à qui le rouge, quel qu'il fût, n'ait jamais fait peur. Et c'était la note dominante qui forçait les autres couleurs à se marier dans des accords doux. La population nègre d'Alger avait aujourd'hui vidé ses coffres. Elle avait mis dehors, sans réserve et avec l'excessive ostentation des pauvres, des avares et des sauvages, l'opulence inattendue de ses costumes, de ses parures et de ses bijoux, car la garde-robe des marchandes de galettes et des servantes renferme des trésors dont personne ne se doute et qui sont réservés pour paraître dans cette fête unique. Chacune d'elles avait donc, comme un navire qui se pavoise, arboré ce qu'elle possédait de plus riche, c'est-à-dire de plus bizarre et de plus voyant. Pas une ne portait le voile gros bleu. Les haïques quadrillées de couleurs tristes tenaient lieu de tapis à celles qui n'en avaient pas d'autres, ou servaient à composer des tentes, des abris et des parasols, et c'était à l'ombre de leur livrée de domestiques que les esclaves déguisés en princesses passaient cette journée d'indépendance et de luxe. On voyait là tout ce que la teinture orientale peut produire en vivacité, avec ce que la polychromie nègre peut imaginer le plus imprévu. Les soieries, les laines multicolores, les chemisettes lamées, rayées, pointillées, pailletées de broderies, dont les manches ondoyaient avec des étincelles, de petits corsets d'étoffe, d'autres couverts de métal agrafés très haut, comprimant la gorge et la gonflant, les foutas de soie légère et frissonnante bariolées à l'infini et habillant les femmes par le bas comme une sorte d'arc-en-ciel changeant. Là-dessus étaient semés à profusion des bijoux de toute espèce, dorures, verroteries, perles, sultanes, nains, coraux, colliers de coquillages à portée de Guinée, flacons d'essence venus de Stamboul, anneaux de jambes appelés « khol-khol » à cause du bruit qu'ils font quand on les entrechoque en marchant, orfèvrerie scintillant sur de noires poitrines. Et imagine encore 3 ou 4 pendeloques à la même oreille, aux turbans, des miroirs, aux bras, des bracelets accumulés l'un sur l'autre et montant depuis le poignet jusqu'au coude, des bagues à tous les doigts, des fleurs partout, et toutes les mains occupées à tenir en manière d'éventail des mouchoirs qui, de loin, ressemblait à des oiseaux blancs qui s'envolent. Quand on a vu les négresses que dans leur vie ordinaire, habillées de bleu sombre et faisant leur petit commerce au coin des rues, dans une tenue si morne et avec des airs si taciturnes, on ne saurait prévoir ce que devient ce peuple ami des joies bruyantes dès qu'il a fait sa toilette et qu'il se ranime. Alors il prend sa physionomie native. Il est vif, qu'il est alerte, la chaleur l'excite, le soleil qui ne mord pas sur lui l'agite à la façon des reptiles. Étrange race, inquiétante à voir comme un sphinx qui rirait sans cesse, pleine de contrastes et de contradictions, à l'état de nature aussi libre que les animaux, partout transportée, acclimatée, asservie, j'allais dire, que l'humanité me pardonne, abrivoisée comme eux, robuste et docile, patiente sous la chaîne et portant avec ingénuité le poids d'une destinée abominable, belle et repoussante à la fois, les yeux caressants, la voix sifflante, le parler doux, jovial avec un visage aussi funèbre que celui de la nuit, rieuse mais avec la bouche fendue comme le masque antique, et donnant ainsi je ne sais quoi de difforme à la plus aimable expression du visage humain. Comique même en étant sérieux, et risible autant qu'ils sont rieurs, le véritable élément de ces pauvres gens, c'est la joie. J'ai vu là, en quelques heures, plus de dents blanches et de lèvres épanouies que je n'en verrai de ma vie dans notre monde européen, où l'on a beaucoup moins de philosophie que chez les nègres. Comme tous les types y figuraient, les beautés étaient très diverses, quelques-unes presque parfaites, la plupart d'une originalité de mise et de tournure qui eût embelli la laideur même. Je te parle ici des femmes, les hommes n'occupant que les derniers plans du tableau. Le voile encadrait seulement leur visage, sans les couvrir, et ne servait guère au-dessous de la taille. Debout, tant que dura la fête religieuse, entassée sur les pentes, elle s'y pressait en masse compacte comme sur des gradins. Chaque saillie du terrain portait un groupe. Les débris d'un vieux mur de briques servirent, pendant une partie de la matinée, de piédestal à une assemblée de statues, les plus belles peut-être, les plus jeunes de la fête. C'étaient de grandes filles au nez droit, aux yeux luisants, aux joues fermes et polies comme du basalte, coiffées à l'égyptienne, et de formes si vigoureuses que, malgré l'ampleur des voiles et des foutas, les muscles vivaient sous leurs habits aussi nettement que sous des draperies mouillées. Elles composaient une seule ligne, faisaient face à l'horizon vide et se découpaient sur l'émail bleu de la mer avec la dureté d'une peinture chinoise. Quatre ou cinq d'entre elles étaient vêtues de rouge. Au centre, il y en avait une habillée en vert, mince, allongée, flexible comme un jonc de rivière, et très jolie avec son turban noir et des argenteries sur son corset pourpre. Elle se tenait par la taille ou les mains enlacées, rattachées ainsi l'une à l'autre par de beaux bras aux poignets fins, la tête droite, la poitrine saillante, les reins un peu faussés par l'habitude de vivre accroupie, et les pieds se touchant comme ceux des Isis. D'autres, étendus à plat ventre sur l'herbe même, avaient la gorge appuyée sur le sol dans une langueur un peu bestiale qui leur donnait l'air de ramper. D'autres, à l'écart, causaient entre elles ou s'occupaient de leur toilette et se posaient des grappes d'acacia autour des joues en vertu de ce goût paradoxal qui leur fait aimer précisément ce qui peut les noircir davantage. Un murmure indéfinissable et comme un gazouillement sans parole, qui remplissait l'air d'un bruit léger, ajoutait encore à l'effet très singulier produit par cette armée de femmes à la peau sombre. On eût dit une peuplade d'Amazones égyptiopiennes ou le harem de quelque sultan fabuleux, surpris en une matinée de réjouissance. C'était fort beau. Et dans cette alliance inattendue du costume et de la statuaire, de la forme pure et de la fantaisie barbare, il y avait un exemple de goût détestable à suivre, mais éblouissant. Au reste, ne parlons pas de goût dans un pareil sujet. Pour aujourd'hui, laissons les règles. Il s'agit d'un tableau sans discipline et qui n'a presque rien de commun avec l'art. Gardons-nous bien de le discuter. Voyons. Ainsi, j'ai dû faire et je me suis promené, regardant, notant les détails, ne vivant plus que par les yeux, plongé sans arrière-pensée ni scrupule dans ce tourbillon de couleurs en mouvement. Le tableau se composait en amphithéâtre, je te l'ai dit, et dans un cadre aussi beau qu'il était vaste, sur un terrain tapissé d'herbes et de hautes herbes. Pas un arbre, mais d'épais massifs d'aloès et de cactus. Autour, la plaine bocagère du Hamma, pour fond, d'un côté, le Sahel ombreux et vert, de l'autre, la mer, avec Alger qui s'inclinait vers elle au couchant, et au levant, les montagnes kabyles, qui venait y mourir, et au-dessus un ciel net et le soleil, le dieu des idolâtres et le vrai roi de la fête. Les hommes se pressaient, amassés sur le sable fin du rivage, en uniforme blanc, en multitude épaisse, comme un grand troupeau. Les danses commencèrent vers midi et durèrent jusqu'à la nuit close. L'infernale musique ne cessa pas d'une seule minute, tant il y avait de gens de bonne volonté pour remplacer les musiciens et les danseurs épuisés. Pendant ce temps, les femmes s'établirent sous les tentes ou près des tentes, et l'on mangea. Au centre du bivouac, sous un pavillon surmonté d'étendards et le plus luxueux de tous, se tenait, à titre de personnage officiel, Lamine des Nègres d'Alger. C'était un petit homme maigre, à la barbe frisée, au regard aigu, qui a du diplomate tout ce qu'un homme de sa race peut en avoir. Il était sérieux et affable. Il offrait le café à ceux qui lui paraissaient valoir cet honneur. Et à force de rôder autour de lui, je lui parus sans doute quelqu'un de notable, car il m'invita. J'attendis courageusement jusqu'au soir. Je vis le soleil tomber derrière les collines, et ce fut au milieu de la foule et des musiques que je rentrai chez moi, brisé de lassitude, gorgé de couleurs, mais fort satisfait de ma journée, car je m'imaginais avoir fait provision de lumière pour les jours ténébreux et trop fréquents où l'esprit n'a plus que des vues tristes. Mustapha d'Alger. Naaman est mort. Naaman, le fumeur de haschich, celui dont je le disais au mois de novembre dernier, avec la prévision de sa fin prochaine, qu'il brûlait sa vie dans le fourneau de sa pipe. Je l'ai vu passer hier dans le champ de manœuvre, sur un brancard couvert d'un drap rouge. Il était porté par des amis et des voisins, qui, suivant l'usage, se relayaient de minute en minute et conduisaient le mort au pas de course. J'entends par voisin ceux du café, car Naaman n'avait pas d'autre domicile que la boutique enfumée du Kawalji de Si Mohammed el-Sherif. C'est en reconnaissant les figures accoutumées du carrefour que je pris garde à l'enterrement, et je sus que c'était ce pauvre diable, à moitié mort depuis longtemps, qui venait de mourir tout à fait. Il avait continué ses habitudes, rêvant, dormant, fumant à la même place et ne respirant plus d'autre air vital que sa fumée. Il n'était ni plus gai, ni plus triste, ni plus absorbé que l'ordinaire. On le vit le matin prendre sa pipe et l'allumer. Il fit ainsi jusqu'à midi. Le soir, on remarqua qu'il ne fumait pas. Sa pipe était pour toujours éteinte. Sa vie aussi. Je voulus me joindre au très petit nombre de ceux qui lui faisaient cortège, et je le suivis jusqu'au cimetière. La cérémonie fut courte. Il ne fit que passer par le marabout, où l'on déshabille ordinairement les morts, et qui sert de vestibule au tombeau. Presque aussitôt, je le vis paraître, porté à bras et noué seulement dans un linceul. Deux fossoyeurs faisaient le trou, à peu près comme dans Hamlet, un dans la fosse et la creusant, l'autre enlevant la terre avec un panier. Le trou fait, on y laissa couler le cadavre, puis la terre. 10 minutes après, la fosse était comblée et formait seulement d'eau le sillon. C'était à ne plus savoir ce qu'on avait mis là, si c'était un homme ou quelque semence. Si Naaman n'avait pas laissé l'héritier, ce qui est probable, et si sa pipe est restée entre les mains du Kawadji, je l'achèterai. Et tu verras un jour cette pipe homicide. Post-scriptum. Rien de nouveau ici. Je suis monté au carrefour où j'ai vu Sid Abdallah, qui me croyait parti pour la France. Il ne m'a point parlé d'Aoua. J'ai retrouvé avec émotion ma maison, ma prison d'hiver et le jardin où les arbres fleurissent. La prairie n'est plus un pré, mais une vraie moisson. Les vaches s'y promènent, enfouies dans l'herbe jusqu'au ventre. La campagne est là, inondée de l'odeur des foins. Mais n'est pas de raison pour rester à Mustapha. Vandel m'attend à Blida et je pars demain. Blida, mai. Il s'est écoulé depuis plusieurs semaines, depuis le jour où je t'écrivais d'Alger. Je les ai passés aussi laborieusement que possible, enfermés dans cette petite ville dont l'air humide et chaud affaiblirait les plus forts par des conseils irrésistibles de mollesse. C'est la dernière séduction qu'elle ait gardée de ses origines, une sorte de bien-être physique et d'oubli de soi-même, qui ressemble à l'effet d'un bain prolongé. Nous voici au 15 mai, c'est-à-dire en été. Les jours sont longs, les midis pesants. Pour vivre d'accord avec le climat, il faut jouir des matinées et des soirées, qui sont encore douces et déjà consacrées le milieu du jour au sommeil. Vandel m'a quitté hier. Il ne va pas loin, m'a-t-il dit, et ne restera pas longtemps absent. Comme il ne m'avait aucunement prévenu de son départ, je fus très surpris, en m'éveillant au petit jour, de le voir à la porte de ma chambre, bouclant ses guêtres de voyage, enroulant son burnous de porte-manteau. « Où donc allez-vous ? » lui criai-je. « Je pars, me dit-il. Je réfléchis cette nuit que je m'engourdissais et prenais de mauvaises habitudes. Bon, je ne saurais vous dire où je vais, mais je m'en vais. Que je vous écrive ou non, ne m'attendez pas avant le milieu de juillet. Si vous voyagez vous-même, laissez votre clé chez Boudiaf. » Boudiaf est le maître de l'hôtellerie arabe de la rue des Koulouglis et le logeur ordinaire de Vandel quand celui-ci vient à Blida. Son nom vaut une bonne enseigne car il signifie « père de l'hôte ». Une demi-heure après, Vandel revenait avec sa jupe en blanche. Il attacha sur le dos de la bête son modeste et léger bagage, se mit en selle et me quitta. Lui parti, je me suis demandé ce que j'allais devenir. Je trouvais ma maison vide, et je compris à cette nouvelle appréhension d'être seul après avoir été deux, que je venais de prendre aussi, moi, ce que Vandel appelle stoïquement de mauvaises habitudes. Même date, la nuit. J'ai fait ce soir le tour de la ville. Ah, voilà que je recommence à dire « je ». J'ai suivi le contour du rempart à l'extérieur, d'abord en plaine, ensuite au pied même de la montagne. Il était 6 heures quand je sortis et 9 à peu près quand je revins à mon point de départ. Ce qui te prouve que je marchais lentement et m'arrêtais souvent. La soirée était chaude, l'air très calme. Un brouillard de bon augure descendit de bonne heure sur la plaine, et le lac et les marais se dessinèrent bientôt par des lignes de vapeur blanche. Les hirondelles, qui sont en nombre incalculable à Blida, disparurent peu à peu du ciel où le jour pâlissait. L'air était plein du vol des insectes de nuit et des moustiques. En arrivant à la porte de l'Oued, je trouvai tout un bivouac établi autour des abreuvoirs. Une cinquantaine de chameaux, une trentaine à peu près de chameliers. Quoiqu'il fît déjà sombre, je vis à leur air et à leur tenue, à leur teint plus obscur, à leurs yeux plus âpres, qu'ils étaient des Sahariens. « D'où venez-vous ? » leur dis-je. Un d'entre eux me dit « De la Khouat. » Et la Khouat, dans une bouche arabe, est un mot très dur et plein de caractère à cause de la gutturale « GH » qui équivaut au « J » espagnol. J'écoutais ce nom bizarre et me le fis répéter pour me donner le plaisir de l'entendre. C'était la première fois qu'un arabe le prononçait devant moi avec cet accent tendre et fier, propre à l'homme qui parle de son pays à des étrangers. Je demandai combien de jours de voyage. Il me dit « 10 jours jusqu'à Bokhar et 2 jours de Bokhar à Médéa. » « Et comment est le chemin ?» Il fit alors le geste superlatif des Arabes, me montra la route unie qui passait près du bivouac, allongea le bras indéfiniment pour exprimer la distance indéterminée d'un immense parcours, et me dit « Regarde, voilà le Sahara !» comme si rien au monde n'était plus beau pour le regard d'un homme que le vide indéfini d'un horizon plat. « Bonsoir, salut sur tous !» leur dis-je. « Sur toi le salut !» répondit le Ahwati. Et j'achevai ma promenade. Avant de rentrer, j'allais m'asseoir au café de Boudjima. C'est un petit café champêtre situé hors de la ville, parmi des arbres, presque au milieu des orangers, et tout entouré de ruisseaux comme un îlot. Il n'y avait personne. Boudjima dormait à côté de ses fourneaux, au-dessus de sa lanterne quasi éteinte. Je ne le réveillai point et m'assis devant la porte. De distance en distance, on voyait paraître et disparaître des points de lumière dans la montagne, et de loin en loin, des chiens aboyaient. Puis je regardais le ciel, où brillaient toutes les constellations de l'été. Le souvenir des Sahariens, au lieu de s'affaiblir, ne me quitta plus, et je me mis, sans le vouloir, à voyager. Or, quand je voyage, soit en réalité, soit en rêve, c'est toujours dans la même direction, le cap au sud. Il est minuit. Je ne résous rien, mais il est possible que je me lève demain, comme Vandel s'est éveillé hier, avec la décision subite de me mettre en route. Quatrième partie, la plaine, Blida, août. Je reviens du sud, après avoir fait ce que j'appellerais, ambitieusement peut-être, un curieux voyage. Ce voyage est noté presque jour par jour et étape par étape dans un journal qui reste indépendant de celui-ci. Mon journal saharien s'arrête à El Ahwat et sur un cri d'homme altéré par 3 mois après de soif continue. Je suis revenu vaincu, je puis le dire, par cette soif mortelle et poussé vers le nord par je ne sais quel désir déraisonnable de voir de l'eau fraîche, d'en boire et de m'y plonger. J'ai fait en moins de 6 jours la route qui nous en avait demandé 10 en allant. J'ai voyagé sans débrider ni dormir, marchant le jour, marchant de nuit, ne faisant plus de grandes haltes et ne bivouaquant jamais plus de quelques heures, trouvant les tours staries, de la boue liquide au lieu d'eau, ou ce qui est pis encore, des résidus d'écume verdâtre. Éreintant mon cheval, épuisé moi-même, mais soutenu jusqu'au bout par cette certitude de renaître en arrivant. J'ai cessé de noter la température en quittant El Arhuat. Ce dont je me souviens, c'est que le thermomètre marquait 50 degrés moins un dixième le jour de mon départ à 4 heures. Le curé me remit lui-même sa dernière observation au moment où je montais à cheval. C'est un certificat que je conserve en témoignage d'un climat qui, pendant les derniers jours, m'a paru terrible. Parti de la Huat un dimanche après vêpres, comme on dirait en pays chrétien, j'étais à Bogari le vendredi matin à 8h30. J'allais droit au caravansérail où je m'établis. J'y passais la journée avec mon domestique et mes chameliers, couché sur la dure banquette d'un hangar et dans une ombre qui n'était pas beaucoup plus rafraîchissante que le soleil. Le soir, un cavalier entra dans la cour du fondouk. C'était Vandel. Il avait appris mon départ, puis mon retour. Il venait à ma rencontre à Bogari en se doutant bien que je ne m'offrirais point à Bogar. « À la bonne heure, » dit-il en m'examinant, « pour cette fois vous ressemblez à un voyageur. »« Ah, oh, mon cher ami, » lui répondis-je, « je meurs de soif. » Et je le regardais comme si la vue seule d'un ami revenant du Nord allait me altérer. Et je le regardais, numéro 2. Et je le regardais comme si la vue seule d'un ami revenant du Nord allait déjà me désaltérer. Le lendemain, à 3h30 du matin, la lune brillante encore et le jour blanchissant à peine, nous reprenions en souple la route de Médéa. Nous avions assez bien employé l'un et l'autre ces 3 mois d'absence, lui au profit de l'érudition et moi de mes études. « Qui donc vous a décidé à partir ?» me demanda-t-il. Bon, je ne lui dis point que c'était son propre exemple, et je lui parlais seulement de la rencontre fortuite des Sahariens de la Huat. « Et qu'avez-vous vu là-bas ?»« L'été, » lui dis-je. « C'est un peu vague, » objecta Vandel, « mais chacun a son point de vue. » Les moussons étaient coupés depuis longtemps, et dans la vallée de l'Oued El Arkoum, je ne retrouvais plus qu'une étendue sans diversité de terre sèche et redevenue poudreuse. Le soleil avait dévoré les chaumes, le peu qui restait sur pied. La chaleur était extrême, même à l'abri des bois dans la montagne. Les pins exhalaient une odeur suffocante de résine, et le cri des cigales, se mêlant au craquement des rameaux échauffés, formait autour de nous comme un pétillement d'incendie. Il fallut cheminer jusqu'à 2 heures pour trouver enfin une source digne de ce nom. C'était un réservoir d'eau limpide, profonde et glacée, ombragé par de grands arbres, et reposant comme dans une corbeille au milieu de lauriers roses, tout épanoui. « Vois-tu, » disent à mon Bachamar, conducteur de convoi saharien, « voici comment l'eau de mon pays. » Le Bachamar en mit une gorgée dans le creux de sa main, la goûta comme il aurait fait d'une boisson inconnue, regarda le sentier pierreux qui montait en spirale autour des flancs sombres du coteau, les arbres qui n'étaient point des palmiers, et répondit simplement : « Dieu fait bien ce qu'il fait. » Je pensais comme lui, mon ami. Et quand la première ardeur de boire fut apaisée, je dis au Saharien: Tu as raison, ton pays est le plus beau du monde. Le 11e jour après mon départ de l'Akhwat, j'arrivais chez moi au moment où le cyprès qui me sert de cadran indiquait un peu plus de 4 heures. D'où viens-tu? M'a demandé Aouar en me revoyant. Du sud, lui dis-je, et je lui nommai l'Akhwat. Le Sahara est le pays de mon père, ajouta-t-elle alors avec autant d'indifférence qu'un spinoziste à qui l'on parlerait du paradis d'Adam. Et pourquoi m'as-tu quitté? Je repris ma place accoutumée sur son divan. Je lui répondis: Pour te laisser faire ta sieste d'été. Je l'ai retrouvée telle à peu près qu'il y a 3 mois, seulement un peu plus languissante encore et sensiblement moins vêtue. Aïchouna, dont je me suis informé, passe une partie de ses soirées dans les bitas, petite fête de nuit, moitié bal, moitié concert, où elle a, dit-on, beaucoup de succès comme danseuse. Le barbier Hassan m'a témoigné combien mon départ subit et ma longue absence l'avaient inquiété, et pour donner plus de prix à ses paroles, il entremêla son vocabulaire un peu corrompu de locutions françaises, telles que celle-ci, mon cher et sacré Dieu. Quant au scribe Ben Hamida, je l'ai rencontré le lendemain même de mon arrivée. Charmant, frais et reposé comme une fille qui sort du bain, il portait, ce qui me l'a fait apercevoir de loin, une longue pelisse de couleur tendre et se dandinait élégamment avec un éventail de boudoir à la main. Beau visage, bonne étoile, lui dit Vandel en le complimentant de sa bonne mine. Ben Hamida me questionna sur mon voyage, sur l'avenir probable de notre établissement à El Akhwat, sur l'esprit des populations sahariennes, me demanda quelle était leur attitude, ce qu'on disait du shérif agitateur du Sud et ce qu'on redoutait de lui, le tout avec la curiosité naturelle d'un homme éclairé que la politique de son pays intéresse. Et comme je lui donnais l'assurance qu'El Akhwat allait devenir entre nos mains un poste frontière solide et parfaitement gardé, que le pays était sain, habitable, et qu'après l'avoir pris malgré les Arabes, nous saurions bien le conserver en dépit du climat, il se contenta de sourire et répondit avec une impertinence exquise: De fort grands personnages ont été suffoqués par une mouche. Et aussitôt il prit congé de nous. Ce diable d'homme combat à la manière des Parthes, dis-je en le voyant brusquement s'éloigner. Oui, dit Vandel, en lançant des proverbes. C'est dommage qu'il ait tourné le dos si vite. J'en avais 10 à lui renvoyer. Maintenant que j'ai vu l'été chez lui, dans son royaume, il n'a plus rien à m'apprendre. Et je n'attends aucune émotion nouvelle d'un climat relativement variable, où le soleil a, comme les oiseaux de passage, des saisons pour paraître et pour émigrer. Il fait très beau, mais ce n'est pas le même beau que dans le sud. Très chaud, mais la chaleur est plus molle que jamais. Très sec, mais cette sécheresse n'est pas comparable à l'aridité menaçante et aussi vieille que le monde qui garde les barrières du Sahara. On voit encore ici des ruisseaux qui coulent, un lac qui fume le soir, des marais qui s'évaporent. Les horizons sont chargés, le ciel est d'un bleu de velours, il n'est plus d'airain. D'ailleurs, les récoltes sont finies, herbages et cultures, tout est rentré, la plaine est nue, septembre approche, dès aujourd'hui l'automne peut venir. Je mets en ordre mon journal et mes dessins de route, un peu tristement, car la comparaison de ce que j'ai vu là-bas fait paraître médiocre tout ce qui n'est pas très beau, et petit tout ce qui n'est plus vide. Blida est une sorte de Normandie humide qu'il est bon de visiter en arrivant en Europe, mais où l'on a tort de s'arrêter quand on revient du sud, parce qu'on retombe alors du grand au joli. Il n'y a pas de verger, fût-il africain, qui vaille une oasis, et le désert fait tort aux plus grandes plaines. Le jour se lève entre 4 et 5 heures. Involontairement, je m'éveille aussitôt qu'il commence à poindre, dernière habitude apportée d'un pays où le sommeil n'a plus d'heure et où jamais on ne dort tout à fait. Ma chambre se remplit confusément de lueurs blanchissantes et de bruits vagues. Je vois l'aube qui s'épanouit par-dessus la ligne verte d'un horizon boisé. J'écoute. Voici la Diane, un air qui m'a fait battre le cœur pendant 2 mois. Un air sans pareil, quand on l'associe dans sa mémoire à des sensations poignantes et uniques. Des chevaux ennis, des chameaux brament. J'entends passer sous ma fenêtre des gens qui vont pieds nus et marchent d'un pas mou. La brise errante qui précède le soleil fait doucement frissonner les orangers du voisinage. L'air est tiède, la matinée tranquille. Suis-je encore au Sahara? C'est une illusion de tous les matins qui dure un moment, juste le temps de reconnaître où je suis, et de m'apercevoir que je n'ai plus de moustiquaire étendu sur moi comme un linceul, que je respire à l'aise, et que le bourdonnement des mouches a cessé. Après quoi, je me retrouve ici dans un autre monde. Je m'éveille avec sécurité. Je cherche, au milieu de sensations toutes paisibles, la secrète angoisse, le sentiment d'un danger possible. La vie est commode, le climat salubre, la saison clémente. Alors, j'éprouve un regret bizarre, et je regarde avec indifférence se dérouler des jours qui n'ont plus rien de redoutable. C'est ainsi que s'ouvrent mes journées, par des bruits, par des lueurs, par des formes entrevues, par le rayonnement grisâtre de l'aurore à travers ma fenêtre ouverte, par un salut donné du fond de l'âme à chaque chose qui s'éveille en même temps que moi. Ce n'est pas ma faute si la nature envahit à ce point tout ce que j'écris. Je lui donne ici tout au plus la part qu'elle a dans ma propre vie. Agir au milieu de sensations vives, produire en ne se sent pas d'être en correspondance avec ce qui nous entoure, servir de miroir aux choses extérieures, mais volontairement et sans leur être assujetti, faire enfin de sa propre destinée ce que les poètes font de leurs poèmes, c'est-à-dire enfermer une action forte dans des rêveries, modifier l'homo sum de Terence et dire « Rien de ce qui est divin ne m'est étranger. » Voilà mon ami, qui ne serait ni trop ni trop peu, et voilà qui serait vivre. Je lisais aujourd'hui même un livre publié sur Alger vers 1830, et j'ai trouvé un détail inattendu qui, tout insignifiant qu'il est, m'a cependant frappé. Ce livre est l'esquisse de l'état d'Alger du consul américain William Scheller. C'est le plus précis, le plus fidèle, le mieux renseigné qu'on ait écrit sur la situation du gouvernement algérien à l'époque très curieuse, où ce gouvernement de flibustiers s'introduisit, ou plutôt fut introduit, dans les démêlés de la politique européenne et passa du brigandage à la diplomatie. L'auteur, qui séjournait dans la Régence depuis 1815, qui avait vu le règne d'Omar et qui recevait les confidences du Dey Hussein, terminait son livre en 1825, au moment même où la guerre était sur le point de renaître avec l'Angleterre. Les événements devenaient graves, une escadre anglaise bloquait la ville et la menaçait d'un nouveau bombardement. Scheller assistait alors de sa maison consulaire à ses préparatifs de guerre, surveillant ce qui se passait dans la rade, notant exactement le mouvement du port, l'arrivée des navires, leur nombre, leur force, leur disposition, indiquant l'état du ciel, quel vent, quelle température, puis mêlant à tout cela les renseignements venus de la Casbah. De cet ensemble de notes prises jour par jour, heure par heure, il composait un journal fort original, une sorte d'histoire panoramique qui devient vivante à force de précision et pittoresque à cause du point de vue. À la date du 14 juin 1825, voici ce que l'observateur écrit. Ce soir, comme pour faire contraste avec l'aspect sombre de la guerre et l'inquiétude qui existe naturellement dans un pays comme celui-ci, nous avons joui des plus beaux phénomènes de la nature. Au coucher du soleil, un cactus glandiflora a commencé à fleurir dans le jardin du consulat et développant insensiblement sa gloire éphémère au rayon d'un beau clair de lune, il embaume l'air à la distance de plusieurs toises de ses doux parfums et répand une forte odeur de vanille. 15 juin. Pendant la plus grande partie du jour, l'horizon était couvert d'un épais brouillard. À environ 5 heures du soir, le brouillard a disparu en partie et l'on a découvert en pleine mer 16 vaisseaux anglais. La belle fleur qui s'était épanouie la nuit dernière était fermée le matin. Le soir, elle était desséchée sur sa tige. Et le lendemain, le diplomate continue le récit du blocus. Ce mince détail observé par hasard illumine à mon avis tout le cours du volume. Ce brouillard des journées chaudes, cette plante rare qui fleurit pendant une nuit d'été et ne reste ouverte que quelques heures, il y a là tout un paysage. Est-il inutile ? Bon, je ne le crois pas, car il rend le tableau plus local. Il rappelle l'Alger physique qu'on oubliait. Il encadre l'histoire sans que l'histoire y perde rien de sa gravité. Si jamais il m'arrivait d'être l'historiographe d'un événement politique ou militaire, sois bien assuré qu'à mon insu, je trouverais moyen de faire épanouir à un moment donné, soit parmi les aridités de la politique, soit au milieu des péripéties d'un champ de bataille, quelque chose comme le cactus glandiflora de l'américain Scheller.